بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité, après avoir fait la salat avec Jamaat, de s'asseoir quelques instants pour parler des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avec Mashfira, fait avec le responsable, Inch'Allah, on a décidé de faire un lundi sur deux, c'est-à-dire deux fois par mois donc, un programme de 20 à 25 minutes maximum, consacré à l'étude du livre très célèbre de Imam al-Nawawi, rahimahullah, qui s'intitule Riyad al-Salihin. On a certainement entendu parler de ce livre très connu qui est Riyad al-Salihin, qui a été écrit par Imam Nawawi, rahimahullah. Alors Imam Nawawi, c'est un des plus grands ulama que le monde musulman n'ait jamais connu. C'est une personne qui a vécu en l'an 7 du Hijra, c'est en l'an 7 de l'Hijra. Et Imam al-Nawawi, rahimahullah, était un spécialiste du ulum al-hadith, de toutes les sciences concernant les hadiths. Et c'était quelqu'un de très connu pour ses efforts dans la recherche des chaînes de narration, également pour sa piété, mais également pour sa simplicité. C'était une personne très aimée à son époque et dont les livres, les ouvrages nous sont parvenus jusqu'à maintenant. Et il suffit juste de se dire qu'un des plus grands livres de l'islam qui s'appelle Sahih Muslim a été commenté par Imam al-Nawawi, et le commentaire de Nawawi reste un des meilleurs commentaires au monde qui existe concernant le deuxième livre le plus authentique après le Coran, qui est le Sahih Muslim. On connaît également les 40 hadiths al-Nawawi, Arba'un Nawawiya. Ce sont des livres plus ou moins connus. Alors, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous allons essayer de voir quelques hadiths du premier chapitre. Imam al-Nawawi, tout comme Imam al-Bukhari, rahimahullah, a commencé son recueil de hadiths par un chapitre qui concerne la sincérité, al-Ikhlas. Il l'a intitulé Bab al-Ikhlas wa Ihdar al-Niyya, c'est-à-dire chapitre concernant la sincérité et l'importance de préparer son intention fi jami' al-a'mal wa al-aqwal al-barizati wa al-khafiyya, dans toutes les actions, dans toutes les paroles et les actes qu'on va faire ouvertement, ou alors les actions qui font partie des a'mal al-qulub, des actions du cœur. Imam al-Nawawi commence ce chapitre en citant deux versets du Coran. Le premier verset concerne la sincérité, mais également concerne cet événement qu'on va vivre d'ici quelques temps, qui est le Eid al-Adha. Imam al-Nawawi cite ce verset, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ce verset, vous le savez, concerne le fait d'égorger les animaux le jour de la fête, Eid al-Adha. Et dans ce verset, Allah Ta'ala explique bien que ni la chair, ni le sang de l'animal atteint Allah. Mais ce qu'Allah regarde dans notre action, dans notre sacrifice, c'est la piété. Hein? Donc, c'est la règle générale à retenir, que Allah subhanahu wa ta'ala regarde quel degré de piété et de sincérité le serviteur fait preuve lorsqu'il accomplit une bonne action. Et il cite ce deuxième verset du Coran, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. En ce sens de ce verset, Allah ta'ala met bien en garde le musulman que, quelle que soit la chose qu'on va faire ouvertement, même si on cache quelque chose de nos cœurs, on le laisse apparaître, Allah Ta'ala il le sait. Et Allah est le seul qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Aucun être humain n'est capable de dire, moi je connais tes qualités, je connais tes défauts, je connais tes péchés, la wallah. Le seul qui connaît, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en muqaddimah, en introduction, le commentateur de ce livre, il dit que dans toute action, il faut absolument l'intention. Et il dit que c'est quoi faire le niyyah? Très souvent, on fait des actions, mais de manière habituelle. Hein, on vient à Namaz, Allahu Akbar, on commence. On fait le saum du Ramadan, on ne mange pas. On lit le Coran, on lit comme ça. Mais pour se résumer à l'exemple de la salat, combien de personnes parmi nous, ils viennent à la masjid sans réellement comprendre c'est quoi la salat? Ils viennent, imam dit Allahu Akbar, dit Allahu Akbar, ils savent juste que c'est une obligation. Si on ne le fait pas, on sera puni. Et si on le fait, ben, on a lu dans Fazal al-Amal qu'il y a telle bonne action, telle récompense. C'est vrai, on a compris l'essentiel. C'est une obligation de la part d'Allah. Si on le fait, on aura telle récompense. Et si on ne le fait pas, il y a telle mise en garde, il y a telle punition sur cette terre, de la tombe et dans le akhirat. Mais cette salat, si on l'accomplit sans comprendre, sans qu'il y ait un niya avant cela, mais cette salat, elle sera certes acceptée par Allah, elle sera certes comptée, mais cette salat n'aura aucun effet direct sur nos cœurs. Et le commentateur, il dit que c'est quoi faire un niyat? C'est lorsqu'on fait, par exemple, on gardera l'exemple de la salat pour que ce soit clair dans nos esprits. Lorsque je fais la salat, premier point, il faut que je sois conscient que cette action, c'est un ibadat. C'est pas un rituel, c'est pas une habitude, c'est pas une tradition, ce n'est pas qu'une obligation. C'est un ibadat. Et c'est quoi un ibadat? C'est quelque chose que je vais faire pour obtenir le contentement d'Allah. C'est quelque chose qui va me propulser, qui va me rapprocher d'Allah. C'est ça un ibadat. C'est quelque chose qu'Allah aime, et lorsque je le fais, Allah est satisfait de moi, il me rapproche de lui. Ça, c'est un ibadat. Déjà, quand je fais namaz, je me dis que ça, c'est pas un gestuel, c'est pas une gymnastique, c'est quelque chose qui va me rapprocher d'Allah. Déjà, si j'ai compris ça, est-ce que je fais namaz vite, non. C'est quelque chose que je fais pour Allah, donc je veux le soigner. Je fais ça avec beaucoup d'attention. Deuxième chose de le niyat, que, bon, c'est un ibadat, c'est un acte d'adoration, je le fais pour Allah. Là, je suis devant Allah. J'ai pas le droit de faire n'importe quoi, là. Je suis devant mon Khaliq, mon Créateur, il m'observe. Et il voit ce que je vais faire, et il voit ce que je pense de ce namaz. Est-ce que je pense à lui, ou je pense à autre chose? Et troisième chose importante de le niyat, c'est lorsque je fais mon intention, je me dis que ce ibadat, c'est quelque chose qui me rapproche d'Allah, je le fais pour Allah, et je le fais, troisième point, parce que Allah me l'a demandé. Je m'acquitte de mon obligation, Allah m'a demandé de faire ce namaz, cette salat, donc je le fais. Si avant chaque salat, et d'une manière générale avant chaque ibadat, on essaie de comprendre bien ce qu'on va faire, je vous assure que cette salat, elle remplira son rôle. Et elle aura son effet directement sur notre iman, et elle amènera un changement peu à peu dans notre vie. Donc ça c'est le premier point. Comment faire le niyat dans le cœur déjà? D'accord? Comprendre c'est quoi ibadat? Que c'est pour Allah, et c'est remplir mon devoir face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième point, il faut être conscient que lorsqu'une personne, pour rester dans l'exemple de la salat, vous avez dans un premier sens, 20 personnes, d'accord? Sur ces 20 personnes, hein, ils font tous la même action, la même salat, même qiyam, même ruku, même sijda, le même geste. Mais entre deux personnes, il peut y avoir une différence entre le ciel et la terre. Quelqu'un, il peut avoir le strict minimum de récompense parce qu'il est venu, il a fait son devoir, et quelqu'un peut avoir des récompenses exceptionnelles, énormes de la part d'Allah. Pourtant, c'est la même chose. Il n'y a pas un qui a fait 12 rakats et l'autre 4 rakats déjà. Mais tout dépend du cœur. Qu'est-ce qu'il y a de ce cœur? Quel degré de sincérité et quel degré de dévotion et de concentration? Vous savez, on ne peut pas quitter le sujet. Il est dit dans le hadith que parmi les petits signes de Qiyamah, la première chose qui sera enlevée du cœur des gens, c'est quoi? Al-Khushu'a. La sincérité. Et pas la sincérité, la dévotion. Il dit jusqu'à arrivera une époque où vous irez dans une grande masjid où il y a plus de 50 personnes qui font la salat, mais il n'y a pas une personne qui fait la salat avec dévotion. C'est juste une habitude. On fait notre devoir, c'est tout. Alors, dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Yawma tubla sara'ir » et dans un autre verset « Wa husila ma fi sudur » ces deux versets du Coran font bien comprendre à l'homme que le jour de Qiyamah, ce qu'il y a dans les cœurs sera dévoilé. Si dans ce monde, on peut faire croire aux gens qu'on est pieux, qu'on est quelqu'un de bien, mais Allah Ta'ala, lui, il sait mieux. Et le jour de Qiyamah, même s'il y avait des choses qu'on avait enfouies dans nos cœurs, personne ne savait, ça se sera mis à jour. Allah Ta'ala, il sait déjà, et le jour de Qiyamah, il nous exposera quelle était notre intention dans telle action, et quel était notre degré de concentration. Et là, ça nous appelle à nous concentrer et à bien réfléchir à notre intention lorsqu'on fait n'importe quelle niyat. Parce que, si Allah Ta'ala voit qu'une personne fait une action, pas pour lui, mais pour faire voir les gens, ou pour un autre objectif que rechercher son contentement, Allah Ta'ala il dit, par l'intermédiaire du Prophète sallam, Inna Allah qal, ana aghna shuraka, yani shirk, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri, taraktuhu wa shirka. Rawahu Muslim. Allah Ta'ala dit que je suis riche au-dessus du shirk. Je n'ai besoin de personne, d'aucun associé dans les actes d'adoration. Et si une personne fait une action et que dans son intention, il m'associe avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on fait une action pour Allah, mais en même temps pour obtenir la faveur de quelqu'un ou pour faire voir aux gens quelque chose. Par exemple, Allah Ta'ala dit que taraktuhu wa shirka. Il a dit cette personne, ce shirk, je le délaisse complètement. Cette paix, Allah Ta'ala n'a nullement besoin d'une action dans laquelle il y a ne serait-ce 1% de niyat secondaire par rapport au niyat original qui est la recherche du contentement d'Allah. Et regardez bien ce hadith, hein. Le prophète dit, man amila amalan. Celui qui fait une action dans laquelle il n'y a pas de sincérité. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas namaz, hein. On ne parle pas de quelqu'un qui n'accomplit pas les actions. On parle de quelqu'un qui fait la salat à côté de vous dans le même saf. On parle de quelqu'un qui se déplace, qui fait ce wuzu, qui vient comme vous, mais le cœur n'y est pas. Il n'y a pas la sincérité. Allah, il délaisse cette action, Allah n'en a pas besoin. Allah n'en a pas besoin. Donc, à nous de comprendre que c'est bien de faire des actions, c'est bien de faire des efforts, mais si on n'a pas travaillé ce cœur, ben sachez que l'effort sera totalement vain. Et là, Imam al-Nawawi commence par le premier hadith, hadith que vous connaissez tous par cœur, vos enfants connaissent par cœur, ils ont pris à madrasa, hadith, dans lequel le prophète sallam dit innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh muttafaqun alayh. Dans ce hadith très connu, le prophète sallam dit que chaque action, qu'une action n'est valable que par l'intention, et chacun sera rétribué en fonction de son niya, en fonction donc de son intention. Celui qui, par exemple, fait le hijrat pour Allah et son prophète, alors il aura ce qu'il aura voulu, ce qu'il aura fait comme effort. Mais celui qui quitte ce pays pour le dunya, il va dans un autre endroit, non pas pour rechercher le din d'Allah, mais pour l'argent, pour les biens, il aura peut-être ce qu'il cherche. Ou alors il voyage pour aller se marier avec une femme, ben il aura peut-être cette femme en mariage. Donc chacun, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ, donc son immigration sera en fonction de son intention. On va expliquer ce hadith très brièvement. Au début, le prophète sallam dit إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, que les actions ne valent que par leurs intentions. Les ulama disent que un musulman qui accomplit un ibadat doit absolument avoir l'intention dans son cœur auparavant. C'est-à-dire qu'il est inconcevable qu'une personne qui est intelligente, qui comprend, ben elle fait une action sans comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Qu'elle ne comprend pas que c'est un ibadat pour Allah. C'est-à-dire qu'une action qui est faite de manière machinale, comme une routine, sans comprendre c'est quoi, sans qu'il y ait de niyat, mais cette action n'aura pas de valeur. On ne dit pas qu'elle n'est pas acceptée, mais l'action ne sera pas comme il le faut. C'est pour ça qu'on dit que les actions ne valent que par leurs intentions. Si l'intention y est, khalas, l'action, elle existe vraiment. Et maintenant, comme on a dit tout à l'heure, le niyat peut varier d'une personne à l'autre. Et en fonction de l'intention, pour un même ibadat, quelqu'un peut avoir le plus haut degré du paradis, et quelqu'un peut aller en enfer. Et ça, c'est incroyable. On ne parle pas de péché, là. On parle de bonne action. Pour une étude Qur'an, ou pour une salade qu'on accomplit, une personne peut avoir le paradis, mais, par opposition, une autre personne peut avoir l'enfer, le jahannam, peut aller dans le jahannam, à cause de cette action. Tout dépend de son intention. Comme Allah dit le Qur'an, « Man kana yuridu l'ajilata ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nurid. » Ça, c'est en commentaire de la deuxième phrase, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. D'accord? Chacun sera rétribué en fonction de son intention. Maintenant, il y a deux catégories d'actions. Par exemple, quelqu'un qui recherche le dunya, comme l'exemple cité dans le hadith, quelqu'un par exemple, à l'origine les musulmans, ils ont quitté Makkah pour aller à Madina, pourquoi? Parce qu'à Madina, ils savaient qu'ils pouvaient pratiquer l'islam. C'est-à-dire qu'à Makkah, c'était pas possible. Donc, c'était un sacrifice pour renforcer le iman. Maintenant, si quelqu'un quitte sa ville pour aller dans un endroit, non pas pour cette raison, mais parce qu'il sait que dans cet endroit, je ne sais pas, il y a un gisement de pétrole. Ou là, dans cet endroit, il y a du travail. Donc, il y va pour gagner, pour travailler. Ce n'est pas un péché, hein, mais seulement, il n'aura pas le thawab. Ou alors, quelqu'un, il va, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un il va à l'île Maurice pour se marier. Il y a une fille là-bas, hein, qui il a posé une demande et le papa dit que tu te maries avec ma fille, mais ici à Maurice, ou alors ici à Mayotte, ou à Madagascar, ou aux îles Comores, pas à La Réunion. Donc il fait un voyage pour se marier avec cette personne, d'accord? Il aura cette femme en mariage, mais c'est pas comme quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre endroit pour rechercher le dîne d'Allah. Même si les deux personnes sont assises dans le même avion, côte à côte, dans les sièges à côté, lui et son niyat lui procurera des sawabs, et l'autre son niyat lui apportera ce qu'il cherchait du dunya. Maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que cette personne qui va dans un endroit pour rechercher le dunya, c'est-à-dire qu'elle aura peut-être ce qu'elle voudra, peut-être. Comme le dit ce verset, la personne qui cherche le plaisir immédiat de ce dunya, alors Allah Ta'ala, عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَنْ نُرِيدْ. Allah Ta'ala, il donne la quantité qu'il veut à qui il veut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un recherche le dunya, c'est un peu complexe, mais il faut bien suivre. Quand quelqu'un recherche les biens de ce monde, ce n'est pas en proportion de vos efforts qu'Allah va vous donner. Il y a des gens qui travaillent peu, mais ils gagnent beaucoup. Il y a des gens qui sont très, très habiles dans, je ne sais pas moi, dans le commerce, dans l'immobilier, dans les actions à la bourse, etc., etc. Ils connaissent tout ça. Ils investissent 100 euros et ils gagnent 2000 euros. Ça existe. Et par opposition, il y a des gens qui travaillent depuis 8 heures jusqu'à midi, 14 heures, 18 heures, lundi jusqu'à samedi compris, mais à la fin du mois, c'est 1200, 1300 euros. Mais ils travaillent plus. C'est-à-dire que le dunya, il n'y a pas de justice dans le dunya. C'est-à-dire de justice apparente. Allah, il décide de donner telle quantité à telle personne, et Allah décide de donner plus à celui-là. Donc, on n'obtient pas en proportion de nos efforts. On n'obtient que ce que Allah a déjà écrit pour vous. Maintenant, par opposition au akhirah. Quand quelqu'un fait une bonne action, comme Allah dit, l'autre verset, « وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا. » Cette personne qui recherche le contentement d'Allah, assurément il sera récompensé. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait une action pour Allah et il va obtenir un peu de récompense. Non. Si son niyat est sincère, il fait l'action comme Allah l'a demandé, assurément Allah va lui donner en quantité et plus même qu'elle ne mérite. Contrairement au dunya, on n'a pas forcément en fonction de nos efforts. Alors les ulama disent que ce hadith-là, pour clore ce hadith, innama al-a'mal bi-niyyat, ce hadith, ça fait partie des piliers de la religion. Ce hadith associé à un deuxième hadith dans lequel le prophète dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun » qu'une personne qui accomplit une action à propos de laquelle il n'y a pas de preuve dans l'islam, pas de preuve de le Coran, ou alors je ne l'ai pas fait moi en tant que prophète, alors cette action est rejetée par Allah. On parle d'innovation, une bidat. Quelqu'un fait une action qu'on ne retrouve pas dans le Coran, ou qu'on ne retrouve pas dans les hadiths, ou alors que les sahaba ne l'ont pas fait, ne vous fatiguez pas, l'action sera rejetée par Allah. Parce que Allah Ta'ala, il a dit que n'importe quelle action doit venir soit d'Allah, et comme le Prophète sallam l'a accompli. Le Prophète a dit, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Si je vous ai interdit quelque chose, éloignez-vous-en. Et si je vous ordonne de faire quelque chose, faites autant que vous pouvez. Donc, aucune action ne peut être faite sans qu'il n'y ait l'ordre de le Coran ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors les sahaba l'ont accompli. Alors les ulama disent que ce hadith que je viens de dire et le hadith sur le niyat, ce sont deux hadiths de base dans l'islam. D'accord? On finit le hadith. Donc, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et c'est exactement ce qu'on expliquait à l'époque. Les sahaba, ils avaient quitté Makkah pour aller à Madina dans cet objectif, d'accord? Et comme on a dit, gardons l'exemple de tout à l'heure, dans un même avion, deux personnes, ils vont dans le même endroit, un, il va habiter là-bas pour son dîn, et l'autre pour ouvrir un commerce, alors Allah, il sait le niyat des personnes. Donc, Allah seul peut juger ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, on continue, deuxième hadith, et puis je pense qu'on va s'arrêter. Hadith de Aisha, radiallahu anha, qala alayhi salatu wassalam, « Yaghzu jayshun al-Ka'bah, fa'idha kanu bi bayda'i min al-ard » يخسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. rapporté par Bukhari Muslim. Rassemblez hadith que arrivera une époque où une armée va se diriger vers la Kaaba pour prendre le trésor sur la Kaaba. Ça c'est à la fin des temps avant l'arrivée de l'imam Mehdi. Et arrivé dans un endroit, dans un terrain vague, dans un endroit très ouvert, très grand, Allah Ta'ala va ordonner à la terre de s'ouvrir et d'engloutir ces gens. Et tout le monde sera englouti. Et cette armée sera tellement immense que parmi ces gens-là, il y en a qui vont pour se battre, mais il y a même des commerçants avec eux. Il y a des gens qui ont vu qu'il y a une armée qui se déplace, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça ne les intéresse pas. Mais eux, ils ont des marchandises. Ils vont en avoir. Ils vont en manger, ils ont du riz, ils ont du lait, il y a de l'eau, il y a des aliments. Ils savent que quand une armée se déplace, ben ils ont besoin de manger. Et donc, nous on amène nos caravanes, ben ils font leur commerce, ils achètent le repas avec nous. D'accord? Elle dit que même eux, ils seront détruits par Allah. Et là, Aïcha, radiallahu anha, elle demande au prophète d'Allah, comment cela se fait-il que les innocents aussi sont tués, sont engloutis par la terre? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que ils vont subir le même sort, mais le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala ressuscitera chacun en fonction de son intention. Ils y sont tous, hein, dans le même groupe qui se déplace. Il y a un qui veut détruire la Kaaba, et il y en a un qui veut juste faire son travail, son commerce, sans savoir ce que l'autre veut dire, il veut. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce hadith? Que ce qu'il y a dans le cœur, Allah il sait. Allah il connaît précisément le niyat de chaque personne. Et le ulama dit également, attention, ce hadith nous fait bien comprendre qu'un musulman ne doit pas fréquenter une personne, ou un groupe de gens, ou un lieu où on accomplit des péchés. Par exemple, il y a des jeunes qui me demandent, Moïssa, ben, moi je vois, j'habite près d'un bar, je vois des musulmans qui viennent au bar. Je ne doute pas de ces gens-là, je sais qu'ils viennent boire un café, ou alors ils viennent boire un jus frais, des trucs comme ça. Mais moi je dis à ces jeunes que même si votre intention n'est pas de boire de l'alcool, d'accord, mais ne restez pas dans un endroit où le haram est fait. Parce que vous ne savez pas.